Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Jeudi 10 avril. Bonsoir à tous, bienvenue. Venez donc prendre avec nous le train de l'actualité. C'est la session de l'info soirée qui débute sur RFI. Voici les temps forts des 3 heures à venir. Avec dans 10 minutes Accent d'Europe qui sera à Rome, où l'on apprendra eh bien que les Italiens sont profondément pacifiques dans un contexte pourtant où l'Europe doit se réarmer. Et puis Accent d'Europe également en Bulgarie pour évoquer une arnaque aux crypto-monnaies. Juste après, le débat du jour se penchera au chevet de la Cour pénale internationale, la CPI, qui est malade. Elle a subi d'importantes attaques ces derniers mois, des sanctions d'abord prises par Donald Trump en début d'année, une procédure de retrait qui a été annoncée la semaine dernière par la Hongrie, alors que le Premier ministre Viktor Orban recevait un homme visé par un mandat d'arrêt de la CPI en la personne de Benjamin Netanyahou. D'où notre question ce soir, est-ce que la CPI est encore crédible? Question que nous poserons donc dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir, Christophe Paget, le dossier nous emmènera aux États-Unis pour évoquer de possibles manipulations des marchés. 18h30 TU, Afrique Soir, première édition de ce jeudi, et à la une, la RDC, les trois Américains condamnés par la justice congolaise sont désormais poursuivis par la justice de leur pays. 19h10 TU, le décryptage. Marion Kazanov qui s'intéressera ce soir à ce qui se passe actuellement en mer Baltique. Des capteurs russes auraient été découverts près des eaux territoriales du Royaume-Uni et ils seraient utilisés, ces capteurs, eh bien, pour surveiller les sous-marins britanniques. Ça relance l'hypothèse d'une guerre hybride. Rendez-vous donc dans un peu plus de 2 heures sur RFI. Et puis enfin le grand reportage, ça c'est dans 2h30. Fessenheim, dans l'est de la France. Comment démanteler une centrale nucléaire? Voilà pour le programme des 3 prochaines heures. Donc, mais pour l'heure, il est 17h02 temps universel et c'est le journal de Diane Berger. Bonsoir Diane.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et tous.
Et à la une ce soir, les bourses européennes qui ont repris des couleurs aujourd'hui.
Oui, une journée de hausse après une semaine d'angoisse. Les investisseurs sont soulagés depuis le gel officialisé hier, mercredi, par Donald Trump, le président américain, qui met donc en pause pour 3 mois les droits de douane lancés il y a une semaine contre la plupart de ses cibles, dont l'Europe. En réaction, l'Union européenne a d'ailleurs suspendu sa riposte aux droits de douanes américains, Pierre Benazet.
La Commission européenne a décidé de prendre la pause décrétée par Donald Trump comme un signe de bonne volonté. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, appuie donc elle aussi sur le bouton pause pour 90 jours. Elle suspend donc les droits de douane de rétorsion sur 180 produits américains qui avaient été adoptés ce mercredi par les États membres de l'UE et qui devaient entrer en vigueur le 15 avril. Étant donné que les 27 ont donné à une écrasante majorité leur feu vert pour cette réplique, elle va suivre son cours et le décret d'application sera adopté de manière à pouvoir être déclenché tout de même, si besoin. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz avait d'ailleurs été jusqu'à estimer que la volte-face du président américain était une réaction à la détermination affichée par les Européens. Cette réplique européenne ne concernait que la riposte aux droits américains sur l'acier et l'aluminium, qui reste en place, de même que les droits sur l'automobile. Mais la suspension américaine, qui ne concerne que les fameux droits dits réciproques, est tout de même vue par la Commission comme une possibilité de relancer des négociations sur l'ensemble de l'offensive commerciale de Donald Trump. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Du soulagement donc côté européen, en revanche la situation reste mauvaise à Wall Street. La bourse de New York s'enfonce encore un peu plus, le dollar continue également sa chute et le cours du pétrole a également perdu plus de 5%. Ils ont osé critiquer la stratégie militaire israélienne et ils sont pour cela renvoyés. L'armée de l'État hébreu se sépare de pilotes réservistes car ils ont signé une lettre publiée dans les médias où ils demandent que l'on se concentre sur la libération des otages, même si cela suppose de mettre fin à la guerre contre le Hamas à Gaza. C'est dans ce contexte de conflit dans l'enclave palestinienne que le Hamas salue, je cite, une étape importante. Réaction officielle après l'annonce faite hier par Emmanuel Macron, le président français, Paris pourrait en effet reconnaître l'État palestinien au mois de juin prochain. Sur le terrain pourtant, la possibilité de création d'un État palestinien semble bien lointaine. Les bombardements se poursuivent sur Gaza. La Cisjordanie occupée, elle, vit au rythme de déplacement de population. Pour RFI, Amira Souilem a rencontré Atul Karem, un Palestinien déplacé à plusieurs reprises depuis la création de l'État d'Israël. Et il a encore dû quitter sa maison il y a quelques jours.
Avec beaucoup de fierté, Walid Hussein Ali arbore sa carte d'identité.
Je suis né le 9 janvier 1947 à Haïfa, Je suis né à Haïfa. En 1948, ma famille a dû quitter Haïfa du fait des attaques de la Haganah et des soldats israéliens. Ma famille est d'abord restée dans un premier village, puis elle est partie pour Jénine. Et pour finir, on nous a déplacés vers Nour Shams en 1952.
73 ans après son arrivée dans ce camp de réfugiés des faubourgs de Tulkarem, Walid Hussein Ali a dû partir à nouveau.
En fait, ce sont mes enfants qui m'ont demandé de partir parce que j'aime bien rester dans le jardin et arroser mes arbres alors que eux vivent à l'intérieur sans allumer les lumières de façon à ce que l'armée israélienne ne les remarque pas. L'armée est à environ 150 mètres de chez nous seulement. Les destructions qui ont lieu à Nour Shams sont au-delà de l'imagination. On ne sait pas si on va pouvoir rentrer après ces déplacements. Jamais on n'aurait pu imaginer ça de notre vie.
À 78 ans, et malgré les risques, le vieil homme confie que de temps en temps, il se faufile de nuit dans son ancien quartier pour pouvoir rendre visite à ses 40 petits-enfants. Amira Suilem, Tulkarem, RFI.
17h06, en temps universel. En France, c'est la fin d'un procès d'une affaire qui avait choqué l'opinion. La relaxe a été prononcée contre l'enseignante accusée d'avoir harcelé plusieurs de ses élèves, dont une jeune fille nommée Eva L, qui avait fini par se suicider en juin 2019. Le parquet avait requis contre la professeure de français 18 mois de prison et une interdiction d'exercer, mais le tribunal a estimé que l'élément intentionnel du harcèlement n'était pas caractérisé. La mère d'Eva L, Marie Dupuis, a réagi au micro de Baptiste Coulon à la sortie de l'audience. Elle avait anticipé le scénario, dit-elle, mais elle le déplore.
Pas une surprise, je l'avais vraiment envisagé. J'étais absolument pas confiante, ni dans un sens ni dans l'autre, parce que je sais que la justice peut être dure, elle se base sur des lois, il faut la faire évoluer, vous savez, le harcèlement scolaire n'existe que depuis 2022. Donc non, j'étais absolument pas confiante. En fait, moi, je le vis comme la justice cautionne le comportement de cette professeure et qu'elle a le droit de se comporter comme ça vis-à-vis de nos enfants. Elle a le droit. Moi, j'avais une question ces derniers jours, c'était est-ce que la justice va être prête à rendre une condamnation ? Moi, je pense que la société est prête à entendre ce genre de choses. Visiblement, la justice n'est pas encore prête.
Des propos recueillis par Baptiste Coulon. L'enseignante a quant à elle annoncé dans un message écrit se sentir soulagée, je cite, la vérité éclate enfin. Le gouvernement français annonce que Notre-Dame de Bétarame va faire l'objet d'une enquête administrative plus poussée. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, reconnaît des manquements concernant cette école privée du sud-ouest du pays, au cœur de plus de 200 plaintes pour violences et agressions sexuelles. Une affaire qui éclabousse François Bayrou, l'actuel Premier ministre, accusé d'avoir protégé l'établissement quand il était lui-même ministre de l'Éducation dans les années 90. Il sera auditionné par une commission d'enquête parlementaire à ce sujet le 14 mai prochain. On l'utilise de plus en plus, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour la planète. L'IA, l'intelligence artificielle, accroît notre consommation d'électricité. En particulier, l'IA dite générative, celle avec laquelle on peut dialoguer, par exemple poser des questions, demander des dessins. Les besoins des centres de données nécessaires pour la faire tourner vont plus que doubler d'ici 2030, Pauline Glaise.
L'an dernier, après quelques années de croissance à deux chiffres, les centres de données consommaient déjà 1,5% de l'électricité mondiale. D'ici 5 ans, cela devrait passer à un peu moins de 3% et ces centres consommeront davantage que le Japon actuellement. Et puis c'est une consommation concentrée. L'Europe, la Chine et les États-Unis représentent aujourd'hui la grande majorité des zones d'implantation. Cela veut dire qu'il y aura localement de gros besoins. Par exemple, un centre de données peut consommer actuellement l'équivalent de 100 000 ménages. Demain, ils pourront atteindre l'équivalent de 2 millions de foyers. Alors selon Laura Cozzi, en charge de la durabilité à l'Agence internationale de l'énergie, cela ne sera pas neutre.
Cette électricité supplémentaire va nécessiter davantage d'énergie et une partie de cette énergie émettra plus que ce que l'on avait anticipé.
Car rappel est fait aux énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique, le charbon répond actuellement à 30% des besoins des centres de données. Cela dit, l'AIE estime que les renouvelables et le gaz naturel devraient tirer leur épingle du jeu, mais ce dernier est aussi émetteur de gaz à effet de serre. Le secteur entraînera d'ici 2035 une hausse de 67% des émissions liées à la consommation électrique.
Pauline Glaise du service environnement de RFI. C'est la fin de ce journal, il est quasiment 17h10 en temps universel. Dans 20 minutes, c'est le débat du jour. Mais d'abord, c'est Accent d'Europe sur RFI.